Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses afin qu'elles arrivent. Afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Le verset sur lequel j'aimerais m'arrêter ce matin, c'est le 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore une fois ce matin te céder toute la place afin que ta parole, Seigneur, qui est esprit, vérité, et qui est aussi une puissance, Seigneur, pour convaincre de péché, de justice et de jugement, Seigneur, puisse venir toucher nos cœurs afin que, Seigneur, nous puissions ce matin sortir grandis parce que non seulement tu nous auras visités, mais parce qu'aussi nous t'aurons rencontrés d'une manière tout à fait personnelle. Seigneur, nous savons que ce n'est jamais le fruit du hasard lorsque nous sommes dans un lieu où ta parole est prêchée. Et ce matin, Seigneur, eh bien, nous avons la certitude que tu as donné rendez-vous à tous et chacun ici présents dans ce lieu ce matin, afin que, en tant que berger, que tu puisses les nourrir, nourrir comme le berger nourrit ses brebis, mais aussi, Seigneur, nous fortifier, nous encourager, nous exhorter, nous reprendre si c'est le cas, Seigneur, mais par-dessus tout, nous rappeler combien tu nous as aimés, combien tu as payé, Seigneur, le prix, Seigneur, pour nous racheter, et combien aussi nous sommes précieux à tes yeux. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Le peuple de Dieu dit amen, amen. Alors, nous cherchons la paix partout, sauf où nous pouvons la trouver, mais nous cherchons en vain, jusqu'à ce que finalement déçus, démoralisés et bouleversés, nous venons nous jeter aux pieds du Seigneur Jésus, et c'est alors que notre recherche se termine. Amen à ça? Ah oui. Qui lève la main là-dessus? Oui, c'est vrai. Hein? Ah, on cherche, hein? On cherche. Et gloire à Dieu pour ceux qui, dans leur jeunesse, en bas âge, puissent prendre cette décision pour le Seigneur Jésus-Christ. Leur recherche dans le monde se termine, et là, il y a une nouvelle recherche spirituelle qui commence dans la personne de Jésus-Christ. Hein? Moi, j'ai pris une décision pour le Seigneur à 36 ans, et combien je regrette de ne pas avoir connu le Seigneur avant d'avoir connu le Seigneur dans ma jeunesse. Quelle bêtise et quelle mauvaise expérience, eh bien, la parole m'aurait épargné. Et c'est une grâce d'accepter le Seigneur très jeune, de recevoir la paix du Seigneur en bas âge. La femme de Billy Graham a pris sa décision, elle est née de nouveau, c'est difficile à croire pour des baptistes, mais elle est née de nouveau à 4 ans. Et elle a dit, je n'ai jamais refait une prière de repentance. À 4 ans, j'étais convaincu de péché. J'étais convaincu que j'étais perdu devant Dieu. Et que si je mourais aujourd'hui ou demain, j'allais en enfer. À 4 ans, elle était convaincue. Elle avait cette conviction. 4 ans. Notre frère Ernest est ici. Je vais voir sa mère de temps en temps. Et Ernest me raconte sa conversion, quoi. En très bas âge. 12 ans, Ernest, non? 12 ans, Ernest. 12 ans. 12 ans. Et on voit le vécu. La paix que le Seigneur l'a inondée dans son cœur pendant toutes ces années. Il y a une phrase, en tout cas, si jamais je participe, lorsqu'elle sera promue dans la gloire de Dieu, que je participerai, eh bien, ce culte de reconnaissance que nous ferons pour la gloire du Seigneur, il y a une phrase que ma sœur Erna me rappelait continuellement quand elle habitait encore à Wand, c'était « Jésus, il est tout pour moi. Il est tout pour moi. » Et ça, quand on est jeune, hein, cette relation qu'on développe avec Jésus-Christ, cette paix qui vient inonder nos cœurs, et ainsi de suite. Eh bien, moi, ça me bénit quand j'entendais ma sœur Erna qui me disait, il est tout pour moi. Et j'espère que ce matin, le Seigneur Jésus, il est tout pour vous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, que vous aspiriez à ce qu'il devienne tout pour vous. Parce que plus il y a des choses qui se rajoutent, si ce n'est pas tout, c'est en partie, l'autre partie, elle vient du monde. Et le Seigneur, eh bien, il veut prendre toute la place qui lui revient. Et que nous puissions dire, quand nous nous rencontrons, le Seigneur, il est tout pour moi. Amen. La paix est de loin préférable au bonheur, car le bonheur, souvent, est le fruit des circonstances favorables, ou ce que le monde dit aussi, qu'on entend dans le monde. Le bonheur, il est chanceux, lui, c'est parce qu'il est chanceux qu'il est heureux. Et lorsque les circonstances sont défavorables dans la vie de quelqu'un, eh bien, il peut affirmer en principe, lorsque les circonstances sont favorables dans la vie de quelqu'un, il peut affirmer en principe qu'il est heureux. Et lorsque les circonstances sont défavorables, eh bien, on entend les gens dire qu'ils sont malheureux. Et s'ils sont malheureux, c'est parce qu'ils sont malchanceux. C'est vrai, hein? Ah, moi, je suis donc malchanceux. Ah, moi, je suis né sous une bonne étoile. Hein? Comme si c'était les étoiles qui décidaient si on était heureux ou malheureux. Hein? Quand on s'arrête à ce que les gens disent, des fois, c'est aberrant, quoi. Hein? Mais c'est ce qu'on véhicule. C'est ce qu'on véhicule dans le monde. Cependant, la foi est quelque chose, la paix, pardon, est quelque chose de plus profond que le bonheur, et heureusement qu'elle ne dépend pas des circonstances de la vie ni de la chance. Elle correspond au repos de l'âme, à l'absence de révolte intérieure et à un bon équilibre moral. Demandez à quelqu'un s'il veut être heureux, il vous répondra oui sans hésiter, parce que le bonheur constitue le but de toute existence humaine. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dans les instituts psychiatriques, c'est pas des gens heureux qui sont là, c'est des gens qui sont foncièrement malheureux. Ou c'est des gens qui ont été rendus foncièrement malheureux par d'autres personnes. Mais le but de toute existence humaine, c'est d'être heureux. J'ai jamais rencontré quelqu'un sur la rue, moi, qui je lui dis comment ça va, qui m'a dit, ah, je suis malheureux, je suis heureux, mais je suis vraiment pas bien, faudrait que je sois malheureux pour bien vivre, quoi. Ah, c'est souvent le contraire, on dit, non, je suis malheureux, ça va pas, j'aimerais donc être heureux comme toi, j'aimerais donc être heureux comme un tel, quoi. C'est le but de toute existence humaine d'être heureux. Mais où se trouve la route, où trouver le bonheur? Voilà ce que les hommes ignorent. Ils vont à droite, ils vont à gauche pour essayer de trouver. Et il faut dire que le fait d'aller à droite et à gauche est déjà une recherche, mais le Christ nous a remis sur le bon chemin. Et saint Augustin, bon, je ne cite pas tellement saint Augustin trop souvent, mais je vais le citer. Il dit, « Ô Dieu, tu nous as créés pour toi, et nos âmes ne connaîtront jamais le repos. » Saint Augustin, qui vivait une vie de débauche avant de rencontrer le Seigneur, et qui est devenu un grand homme de Dieu, eh bien, dit, ô Dieu, tu nous as créés pour toi, et nos âmes ne connaîtront jamais le repos. Et quand Jésus parle de la soif, quand Jésus parle de la faim, il parle justement de cette recherche vide de Dieu dans le cœur de l'homme. Et on va à droite et à gauche pour essayer de combler ce vide, et qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on peut le combler. Jésus dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif, n'aura plus jamais faim, parce que Jésus va combler tous nos besoins essentiels. Et c'est cette sorte de paix que le Seigneur Jésus a promis de donner à la foule venue l'entendre. Dans Matthieu chapitre 11, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, c'est-à-dire je vous donnerai la paix de l'âme, la paix que vous recherchez. » Il y a déjà des guerres partout dans le monde, mais la pire guerre, c'est la guerre, c'est l'homme qui est en guerre avec lui-même, quoi. L'homme est en guerre avec lui-même. Alors, quand il est en guerre avec lui-même, c'est facile pour lui de faire la guerre avec les autres, quoi. Mais l'homme est en guerre avec lui-même, tant et aussi longtemps qu'il ne passe pas par la croix pour recevoir la paix en Jésus-Christ. Dans Ésaïe, chapitre 40 à 48, il est écrit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Et dans les chapitres 40 à 48, Dieu dénonce l'idolâtrie auquel le peuple s'était livré. Le peuple s'était détourné de Dieu, le peuple avait construit des idoles qui étaient sans vie, qui n'avaient pas d'oreilles pour entendre, qui n'avaient pas de bouche pour parler, pour répondre aux prières du peuple. Et Dieu, dans les chapitres 48, va déclarer, il n'y a pas de paix pour les méchants. Et les chapitres 49 à 57 sont des passages qui nous parlent du Messie à venir. Et là, il est en train de dire, écoutez, il y a un espoir pour tout homme, voici le Messie à venir. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous voyons le vrai serviteur de l'Éternel, le sauveur promis par les prophètes, acceptant de venir dans ce monde pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. L'Esprit du Seigneur était sur lui. L'Éternel l'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alors, on peut le prendre au sens littéral, mais on peut le prendre aussi au sens spirituel, au sens émotif. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé par toutes sortes d'abus sexuels. Ceux qui ont le cœur brisé par toutes sortes d'abus verbales, par toutes sortes d'abus physiques, par toutes sortes d'abus psychologiques. Le Seigneur Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La confession, elle se fait à la croix. Seigneur, voici mon fardeau. J'ai été abusé pendant tant d'années. Seigneur, regarde la souffrance, regarde la cicatrice dans mon cœur, Seigneur, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de t'aimer, Seigneur. Seigneur, donne-moi la guérison parce que mon cœur est brisé ce matin. Seigneur, donne-moi la guérison. Seigneur, remplis mon cœur de ton amour et prends sur toi la blessure que tous ces abus ont accompli, ont fait dans mon cœur, Seigneur. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Captifs d'un péché quelconque, Christ est venu pour libérer les captifs de toute forme de péché. Je le répète depuis 3 mois, le privilège du croyant né de nouveau, c'est pas juste le pardon des péchés à la croix qu'il a reçu, c'est la délivrance de la puissance du péché. Vous dites amen à ça? Il n'y a aucune religion qui peut vous apporter la délivrance de la puissance que le péché exerçait dans vos vies en dehors de Jésus-Christ. Je vous prêche pas une religion ce matin, je vous prêche une relation avec une personne qui est non seulement mort pour vos péchés, qui est aussi ressuscité et qui revient bientôt. Et le Seigneur, il nous dit par rapport à son retour, soyez prêts, veillez et priez, soyez prêts parce que vous ne savez pas à quel moment, eh bien, je vais revenir. Jésus est venu non seulement pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, mais aux prisonniers aussi la délivrance. On est prisonnier tant aussi longtemps qu'on ne connaît pas le Seigneur. On est prisonnier du plus grave péché. Tu ne peux pas exister. Moi et chacun d'entre vous. Et c'est le péché d'orgueil qui est la source de tous les péchés. Adam, hein? Non pas moi, Seigneur, elle. Ève, hein? Non pas moi, hein, Seigneur le serpent. Ouais. Et le péché d'orgueil nous empêche de nous voir tels que nous sommes. Mais il nous permet de voir tous les défauts chez les autres. Il nous permet de juger chez tous les autres. Et quand on commence à lire la parole, ce que le Seigneur veut briser dans nos vies, c'est aussi ce péché d'orgueil. Nous amener à nous humilier, à reconnaître notre péché, notre besoin d'être sauvé, nous amener à la repentance et à la conversion pour nous donner une nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. Et quand vous recevez une nouvelle vie en Jésus-Christ, vous recevez une nouvelle espérance en Jésus-Christ. Comment savoir si on est né de nouveau? Eh bien, ce n'est pas nécessairement juste votre relation avec le Seigneur qui a changé. La question qu'on peut se dire, c'est qu'à partir du moment où je suis né de nouveau, est-ce que ma relation avec le péché a changé? Si ma relation avec le péché n'a pas changé, ma relation avec Dieu n'a pas changé. Frères et sœurs, ce matin, depuis que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous avez pu faire ce prêt de foi. Est-ce que votre relation avec le péché a changé dans vos vies? Ça, c'est un signe de nouvelle naissance. Parce qu'on a reçu un esprit à la nouvelle naissance, c'est l'esprit de Christ qui parle à nos cœurs et qui met en lumière des choses qui ne correspondent pas, qui nous empêche d'avoir cette relation que le Seigneur souhaite tellement. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est-à-dire nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités, et c'est par nos sermites, ces meurtrisseurs que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, il sera méprisé et abandonné par ceux qu'il a tant aimés. Voilà l'amour de Jésus. Vous voulez connaître la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Dieu? Mesurez la longueur des bras de Jésus. Mesurez horizontalement. Mesurez verticalement. Et vous avez la longueur, la largeur de l'amour que Dieu a manifesté pour vous. Elle concerne la personne de Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'heureusement qu'il nous a aimés. Heureusement qu'il n'a jamais, jamais pensé à son bien-être. Heureusement qu'il a vécu uniquement pour les autres. Heureusement qu'il a mis en application ce que je voudrais qu'on me fasse, je le fais aux autres. Heureusement. Heureusement, sinon il se serait décroché de la croix. Il aurait convoqué cette légion d'anges pour venir le défendre. On parle dans la Bible, au moment où il est sur la croix, quel combat spirituel! Les scribes, les pharisiens se sont moqués de lui. La foule s'est moquée de lui. Les soldats se sont moqués de lui. Les deux malfaiteurs, avant qu'il y en ait un qui se repente, les deux malfaiteurs se sont moqués de lui, nous dit la parole. Heureusement que la Bible ne nous raconte pas toute la liste des moqueries qu'il a entendues. Elle nous en donne quelques-uns. « Ah, c'était le Fils de Dieu, décroche-toi! Allez, allez, décroche-toi! Fais le contraire de ce pourquoi le Père t'a envoyé. Allez! Toute la pression qu'il devait avoir! Ah, toi, t'as dit que tu pouvais construire le temple en 3 jours, vas-y! Accroché sur la croix, vas-y, vas-y! » Hey, vous pensez que le diable n'a pas mis de paquet? Hey, ouais. Alors, frères et sœurs, quand vous décidez de manifester à quelqu'un que vous êtes chrétien, si on n'a pas épargné le Seigneur Jésus des moqueries, à combien plus forte raison on ne vous épargnera pas de se moquer de vous, parce que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. On est très, très joyeux, on est très rapide à vouloir porter la couronne de gloire qui nous attend. Mais tout le temps qu'on va être sur la terre, avant de porter la couronne de gloire, le Seigneur nous a promis une chose, on va porter d'abord la couronne d'épines, la même couronne qu'elle lui a portée. Jean chapitre 16, verset 33. Hein? Deux chapitres plus loin. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et l'apôtre Paul dit que c'est une grâce de passer par les mêmes souffrances que Christ si on est chrétien. Mais le Seigneur nous dit, écoute, tu ne seras pas épargné des souffrances, tu ne seras pas épargné des moqueries, mais rappelle-toi une chose, j'ai vaincu le monde. Amen. Et le Seigneur va vaincre vos ennemis. Il va vaincre vos ennemis à travers ce que vous allez dire, à travers votre comportement. Il va amener et laisser vos ennemis avoir bouche bée, être incapable de dire quoi que ce soit. Pierre nous rappelle qu'écoutez, si on est condamné, jugé pour des choses mal qu'on a fait, c'est normal. Mais si on est jugé, condamné pour des bonnes choses, la gloire soit rendue à Dieu, quoi. Et c'est des charbons ardents qui se déposent sur la tête de ceux qui veulent, qui nous en veulent. Au chapitre 57, nous entendons l'Éternel prononcer ces terribles paroles. Il n'y a pas de paix pour les méchants, aucune paix pour celui qui remet son cœur et sa vie entre les mains de quelqu'un ou de quelque chose d'autre que le Seigneur. Et moi, j'aimerais simplement vous encourager ce matin. C'est vrai que je sais pas qui est méchant. En principe, c'est tous ceux qui connaissent pas le Seigneur. Ils ont chacun un degré de méchanceté. Mais j'aimerais vous encourager dans Ésaïe, chapitre 55. Ça nous évite à porter des jugements sur une personne qu'on témoigne pendant des années, on voit pas aucun changement, il continue à se moquer de nous, et là on est découragé, on le sort de notre liste de prières, et quand on le rencontre, on veut plus lui parler du Seigneur, et là je trouve que c'est un passage encourageant dans Ésaïe, chapitre 55, concernant le méchant. Et moi je loue le Seigneur que ceux qui m'ont témoigné, ça en a pris 5 ou 6, ne se découragent pas de me parler du Seigneur, parce qu'aujourd'hui je serais pas ici. Et c'est vrai que j'étais méchant dans le monde. C'est vrai. C'est vrai que dans le monde, je m'amusais à faire pleurer les gens. Et comme notre frère Salvatore a dit tantôt, ben depuis que je suis au Seigneur, ça m'arrive plus souvent de pleurer. Et j'ai arrêté de faire pleurer les gens. Pourquoi je pleure des fois? Parce que je me dis je méritais pas qu'il meure pour moi, quoi. Il aurait dû me laisser dans mon caca, il aurait dû me laisser dans ma boue. Je me suis moqué de lui pendant 36 ans. J'ai mené ma vie comme bon me semblait. Et pourtant, Dieu avait toujours son regard sur moi. Et Dieu savait à quel moment je serais prêt pour prendre cette décision pour lui. Alors ne vous découragez pas. Ésaïe, chapitre 55, verset 7. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Regardez ce qu'il dit ici. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Heureusement que la limite du Seigneur pour pardonner ne correspond pas à la nôtre, n'est-ce pas? Des fois, quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose, qui nous fait quelque chose, qui passe mal, on est porté le mettre de côté. Hein? Heureusement qu'à chaque fois qu'on commet un péché, le Seigneur, il ne passe pas. Hein? Son bras est toujours là. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Il attend toujours qu'on vienne pour lui demander pardon parce qu'Isaïe nous dit que le Seigneur ne se lasse pas de pardonner. C'est pas extraordinaire, ça. C'est pas extraordinaire, frères et sœurs. Alors, peu importe le péché que vous avez commis, peu importe ce que vous faites de mal, rappelez-vous toujours que devant le trône de Dieu se trouve encore la grâce pour recevoir le pardon. Et que Dieu ne se lasse pas de pardonner. C'est vrai que c'est fatigant de venir devant le trône et dire, « Ben, Seigneur, ben oui, c'est encore moi, pour la centième fois, je viens de confesser le même péché. Ah oui. » Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je ne me lasse pas de te pardonner. Je ne me lasse pas de te pardonner. Je suis patient. Je suis patient avec toi. Je connais tes combats. Je connais tes luttes. Je vois tes tentations. Et il nous parle quand on vient confesser. Il nous parle. C'est pas juste un monologue avec la croix. Christ nous répond à travers sa parole. Et il nous dit, rappelle-toi, peu importe les tentations, peu importe les épreuves que tu passes, je ne permets jamais qu'aucune tentation ni aucune épreuve soit au-delà de tes forces. Et en plus, je te donne déjà le moyen. J'ai déjà trouvé le moyen. Comment tu peux t'en sortir? 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Hey, je ne me lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de mes pensées. Chapitre, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Hey, frère, ça, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Les deux malfaiteurs sur la croix se sont moqués de Jésus. Ouais. Et quand il y en a un qui a décidé, lui, de se repentir, Jésus n'a pas dit, hey, attends un peu. Hey, tu ne te rappelles pas ce que tu viens de me dire? Tous les déchets que tu as déversés, que j'ai entendus dans mon oreille? Il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. » Et juste avant, il a dit à son copain, « Ferme-la. Nous, on mérite ce qu'on... Nous, on a ce qu'on mérite, mais pas lui. » La repentance vient de reconnaître, lui-là, que lui, il mérite d'être crucifié comme un coupable, parce qu'il est coupable. Mais que celui qui est à côté, qui s'appelle Jésus, ne mérite pas de recevoir cette punition. Et là, quelle belle prière de repentance. C'est pas long, hein? Seigneur, moi, je mérite de mourir, de subir le châtiment pour mes péchés. C'est ça que le malfaiteur est en train de dire. Mais toi, Seigneur, jamais tu aurais dû être là. Jamais. Tu es innocent. Tu n'as jamais péché. Pourquoi tu es là, Seigneur? Parce que je reconnais que c'est sur toi. Que c'est sur toi que retombe la punition, le châtiment pour mes péchés, Seigneur. Hey, c'est ce que le malfaiteur est en train de dire. Et il croit au retour de Jésus. En plus, il dit, « Seigneur, ne m'oublie pas quand tu vas revenir dans ton royaume. » Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Il dit pas, « Fais des œuvres, m'a montré que tu es fidèle. » Non, il est attaché, le malfaiteur. Ça, ça vient de détruire toutes les religions, ça. Aucune œuvre. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui dit? « Dans ma grâce, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ouais. » Moi, j'ai l'impression que le malfaiteur, à partir de ce moment-là, il ne ressentait plus sa souffrance. Quoi. Ah, il avait la paix et la joie d'être sauvé. Quelle grâce que le Seigneur lui a fait. Alors, frères et sœurs, s'il y a des gens qui sont méchants parce que vous êtes chrétiens, continuez à leur témoigner. Parlez-leur de la parole de Dieu. Parlez-leur pas de paroles de jugement, de condamnation parce qu'ils vous dérangent. Prêchez-leur l'Évangile. Annoncez-leur l'Évangile, la bonne nouvelle qui sauve. Et Isaïe nous dit ici, que cette parole qui sort de votre bouche ne retournera pas à Dieu sans avoir provoqué, sans avoir fait son effet dans le cœur de celui qui l'a reçu. On va se dépêcher. Il reste, il y a la réunion cet après-midi. J'aimerais simplement terminer avec vous en allant dans Philippiens chapitre 3 et chapitre 4. Dans les Écritures, il y a deux aspects de la paix. Il y a la paix avec Dieu et la paix de Dieu. On reçoit la paix de Dieu quand on accepte que Jésus soit mort pour mes péchés. La paix avec Dieu. Et c'est pas nous qui faisons la paix avec Dieu, c'est Jésus-Christ qui a fait la paix avec Dieu pour nous. Et nous, par la foi, eh bien, on reçoit cette paix, c'est-à-dire qu'on est réconcilié. Un autre terme que la Bible utilise, on est réconcilié avec Dieu, on est en paix avec Dieu. Mais il y a un autre aspect de la paix, c'est que non seulement j'ai la paix avec Dieu, mais aussi j'ai la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, j'en ai besoin pour vivre à chaque jour. Et cette paix de Dieu, je l'ai quand je vis en communion intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Philippiens, chapitre 3. Essayez de me retrouver dans mes notes en même temps. Alors, nous lisons dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, que Christ partage sa paix avec nous. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. » Qu'est-ce qu'il dit? « Faites des prières et des supplications avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre. » L'être humain ne peut pas comprendre cette paix parce que il est trompé par cette paix qu'il entend toujours dans le monde, des traités de paix qu'on ne respecte pas. Et ensuite de ça, des gens qui se donnent des poignées de main, on fait la paix ensemble, ouais, ils se tournent, paf! Hein, c'est arrivé plusieurs crimes comme ça dans le monde, hein? Ouais. On appelle ça poignarder avec amour, hein? Ouais, ils se tournent, paf! Ouais. Mais la paix de Dieu, c'est pas ça, quoi. Hey. La paix de Dieu, c'est qu'on se rappelle que Jésus-Christ est avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est extraordinaire. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde et je suis avec vous tous les jours et ça jusqu'à la fin du monde. Il semble étrange que quelqu'un qui se trouve en prison, et là on parle de l'apôtre Pierre ici, l'apôtre Paul qui se trouve en prison, puisse dire aux chrétiens de se réjouir. « Hey, c'est-tu un malade? C'est-tu un drogué, Paul, quoi? Hein? »« Hey, il n'est pas à l'antin, là, hein? » Vous savez où il est? Il est dans une prison où on ne fournit pas la bouffe, hein? Non. Il est dans une prison pour manger, ses amis doivent venir les porter à manger, hein? Et s'il veut pas habiter tout nu dans sa cellule, il a besoin d'avoir des gens qui vont lui porter des vêtements aussi, hein. Ça, c'était la façon de vivre des prisonniers à l'époque, hein. On regrette un peu ça aussi, hein. Et il y a peut-être moins de prisonniers dans les prisons aujourd'hui si c'était comme ça. Ouais. Ouais. Les prisonniers dépendaient des proches pour être capables de survivre dans les prisons, quoi. Ils avaient souvent comme compagnons les rats, les rongeurs. Ils n'avaient pas de TV, pas d'ordinateur, pas de cours. Il ne faut pas aller chercher de diplôme dans les prisons à ce moment-là. Alors, tu dis, mais Paul, comment ça se fait que tu es craqué comme ça? Hey, tu n'habites pas dans un château, tu habites dans une cellule. Tu es en attente d'un jugement, tu es en attente de passer devant César. Tu es condamné parce que tu as prêché l'Évangile. Comment peux-tu non seulement être joyeux, mais stimuler les autres à être joyeux? Qu'as-tu fait, Paul? L'attitude de Paul ici nous enseigne une vérité importante. Les circonstances extérieures ne doivent jamais affecter les dispositions de mon cœur. Les circonstances extérieures ne doivent jamais affecter les dispositions de mon cœur. Ça fait partie du combat spirituel. Gardez vos yeux sur les circonstances plutôt que de garder vos yeux sur celui qui a le contrôle de toutes circonstances dans votre vie. Qu'est-ce qui faisait que David était fort par rapport à tous ces soldats israélites qui avaient peur du géant à chaque fois qu'il apparaissait? Il faisait peur à une armée, un bonhomme, quoi. David, qui n'est même pas capable de porter une armure parce qu'il n'en a jamais porté, qui n'a jamais fait d'armée, qui n'a jamais eu d'entraînement militaire, fort avec sa petite fronde et ses roches, quoi. Ah, ouais. Et par la foi, il me dit, moi, je vais régler son problème parce que Dieu est avec moi. Alors que tous ces soldats expérimentés voyaient le géant. David, lui, il voyait le Dieu derrière le géant qui était capable de le terrasser. Il a lancé une pierre, est arrivé juste au bon endroit. Juste où il y avait un trou dans l'armure de Goliath. Paf, il est tombé. Frères et sœurs, Paul ne s'arrêtait pas aux circonstances extérieures, et parce qu'il ne s'arrêtait pas aux circonstances qu'il vivait, ça n'affectait pas la disposition de son cœur pour son Dieu. Paul avait le cœur rempli de joie parce qu'il savait que peu importe ce qui lui arriverait, Jésus-Christ était avec lui tous les jours et ça jusqu'à la fin du monde. Paul, peu importe où il était, dans une prison, dans un château à l'extérieur, il savait que Jésus était à ses côtés et que par son esprit, il habitait en lui. Paul, en aucun temps, il pouvait dire « Je me sens seul ». Jamais. Jamais. Il s'appuyait sur les promesses de Jésus-Christ. Paul, rappelle-toi, j'ai vaincu le monde. Paul, rappelle-toi, je serai avec toi tous les jours et ça jusqu'à la fin du monde. Paul, tu vis des circonstances terribles. Regarde à celui qui contrôle toutes circonstances. Regarde à celui qui permet que tu vives cette circonstance. Elle paraît terrible, mais c'est pour te former, Paul. C'est pour t'amener à me ressembler, Paul. Parce que les souffrances que tu vis, Paul, j'ai passé, je les ai tous vécues, Paul. Voilà pourquoi je suis capable de te consoler. Voilà pourquoi je peux te réconforter. Voilà pourquoi je peux t'encourager. Les souffrances que tu vis, Paul, je les ai tous vécues. Les tentations par lesquelles les chrétiens passent, Jésus dit, j'ai été tenté en toutes choses. Les épreuves que vous vivez, frères et sœurs, peu importe l'époque, le style qui change, mais les épreuves que vous vivez, Christ les a tous traversées. Et il dit, n'oublie pas, tu seras jamais seul, je suis avec toi tous les jours, et ce, jusqu'à la fin du monde. Et à plusieurs reprises, dans Philippiens, Paul exhorte les chrétiens à se réjouir, et ce, probablement parce qu'ils avaient besoin de l'entendre. On vit dans un monde déprimé, quoi. On vit dans un monde de Valium. Paul, il avait besoin que de la parole de Dieu, lui, pour se remonter, pour se garder à un niveau respectable en tant que chrétien. Et non seulement il avait la parole, non seulement il était joyeux, mais il était capable de dire aux autres, écoutez, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Je ne me trompe pas, c'est Philippiens, chapitre 4, versets 5 et 6. Paul était capable de dire ça à ses frères et sœurs alors qu'il est en prison. Il est facile de laisser ça aller au découragement parce que nous traversons des moments difficiles ou parce que nous n'avons pas pris certaines choses ou certains problèmes au sérieux. Si vous avez perdu votre joie dernièrement, c'est peut-être parce que vous portez un regard sur le monde à partir d'un point de vue purement humain. Regardez le monde à partir du point de vue de Dieu. Et ça va changer votre façon de voir les choses. Ce monde à l'extérieur, il existe encore pour un peu de temps. Le monde auquel vous appartenez, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes un enfant de Dieu, ce monde, Dieu est en train de le préparer. Et ce monde, un jour, il va prendre place et vous allez y habiter pour passer l'éternité. Amen. Oui. Et en terminant, le conseil que Paul nous donne ici dans Philippiens, c'est le suivant. C'est que nous pouvons changer les choses en faisant en sorte que nos sujets d'inquiétude se transforment en sujets de prière. Philippiens, chapitre 4, verset 4. On va le lire ensemble. Paul, ce qu'il nous laisse ici comme message, il nous dit, vous êtes des chrétiens, eh bien que tout sujet d'inquiétude dans votre vie, vous puissiez être capable de le transformer en sujet de prière. Frères et sœurs, souvent, on passe plus de temps à s'inquiéter de ce qui se passe dans nos vies que de prier. C'est vrai ou c'est pas vrai? On passe plus de temps à s'inquiéter de ce qui va arriver dans nos vies, de ce qu'on vit, que de prier. Quand on passe du temps à s'inquiéter, Dieu n'agit pas. C'est pas dans l'inquiétude que Dieu répond, c'est dans la prière que Dieu répond. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit ici? Prenez l'habitude de changer vos inquiétudes et de les transformer en prière. Seigneur, je viens de perdre mon emploi et j'ai deux choix. Là, tu vas t'inquiéter jusqu'à temps que tu trouves un emploi. Tu risques de te faire des ulcères, tu risques d'avoir un cancer. Ou tu dis, Seigneur, j'ai perdu mon emploi, mais tu es en contrôle de toutes choses. Je sais que tu es avec moi, Seigneur, et je sais que tu prépares quelque chose pour moi. Il y a une promesse dans les Écritures. Le meilleur est toujours à venir pour celui qui honore la parole de Dieu. Notre frère Salvatore, tantôt, a raconté qu'il a trouvé un travail à 50 ans, un travail de fonctionnaire. Il n'était pas qualifié. C'était le moins des qualifiés qui est allé passer le concours. C'était un gars d'usine. Il n'a pas l'instruction nécessaire pour passer ce concours-là. Il a fait confiance au Seigneur. Aujourd'hui, il est gardien de prison. Il n'était pas qualifié. Il n'a jamais suivi de cours. Ouais. Ce matin, vous êtes inquiet pour quelque chose dans votre vie? Remettez ça entre les mains du Seigneur. Transformez votre inquiétude en sujet de prière. Jean, chapitre 3, verset 22. Et je termine avec ça. Deux fois, je le dis, donc ça va terminer. quoi que ce soit que nous demandions, quoi que ce soit que nous demandions, nous dit la parole. C'est pas moi, c'est la parole. Parce que vous lisez ça, vous dites ça, c'est un illuminé qui peut croire à ça. Ça dépend quel genre de vie vous menez. Regardez ici, c'est magnifique. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quoi que ce soit, c'est une promesse du Seigneur. Frères et sœurs, si on ne reçoit pas le problème, mais pas du côté de Dieu, il est de notre côté. Quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous allez le recevoir. Pourquoi vous allez le recevoir? Parce que vous gardez les commandements. Le mot « garder » ici, c'est « obéir », parce que vous obéissez à la parole de Dieu et que vous faites ce qui est agréable à Dieu. Souvent, on ne reçoit pas. Pourquoi? Parce que le problème est de notre côté. Le Seigneur, ce qu'il veut. Écoutez, moi, je vais vous raconter quelque chose. J'ai cette vision que le Seigneur, il y a une tonne de bénédictions à déverser sur ses enfants. Et parce que souvent, on passe à côté, quoi. Parce qu'on enlève nos yeux sur ses promesses. Il retient ces tonnes de bénédictions qu'il veut nous déverser. Et là, nous, on s'arrête sur nos inquiétudes, sur ce qui nous inquiète, ce qui nous cause du souci, plutôt que de venir en prière et dire, Seigneur, moi, je suis à bout. Je viens de perdre mon emploi. Seigneur, on vient de diagnostiquer une maladie. Seigneur, moi, je peux plus prier. Je préfère m'inquiéter. Mais vous êtes tout seul quand vous inquiétez. Hein? Vous vous sentez vraiment seul. Hein? Et le Seigneur, il dit, écoute, si tu pries, moi, je vais prier avec toi. Je vais intercéder auprès du trône de mon Père. Et tu vas avoir ta réponse. Et Dieu, tu vas recevoir ce que tu demandes. Pourquoi? Parce que tu gardes les commandements de Dieu et parce que tu fais ce qui est agréable à Dieu. Amen. Et frères et sœurs, la paix de Dieu, on en a besoin. La paix de Dieu, on la garde seulement si on marche en communion avec le Seigneur. Cette paix, c'est la même paix que Christ avait dans son cœur. Et cette paix vous permet d'affronter tout ce que le monde peut vous présenter devant vous pour vous ébranler et pour vous faire, même risquer de vous faire abandonner votre foi, quoi. Ouais. Mais la paix avec Dieu, c'est déjà fait. La paix avec Dieu, Christ l'a accompli à la croix. Mais la paix de Dieu, vous en avez besoin à chaque jour.